Dr. Dave Matthewson, Littérature du Nouveau Testament. Conférence 21, Éphésiens. Symbole copyright 2024 Dave Matthewson et Ted Rill de Brent. Il s'agissait de la conférence 21 sur le livre des Éphésiens donné par le Dr. Dave Matthewson dans son cours d'histoire et de littérature du Nouveau Testament. Très bien, allons-y et commençons. Allons-y et commençons. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que je veux terminer, nous avons commencé la dernière période de cours en parlant du livre des Éphésiens et il y a un certain nombre d'autres choses que je veux dire à propos des Éphésiens. Nous examinerons cela aujourd'hui, même si, encore une fois, je vous rappelle que le matériel sur Éphésiens n'apparaîtra pas lors de l'examen de lundi. Ce sera lors de l'examen numéro 3. Mais je veux terminer notre discussion sur Éphésiens et je veux à nouveau vous donner les 5 dernières minutes environ du cours pour poser des questions sur l'examen. Je dirai juste quelque chose très brève à ce sujet. Je n'ai vraiment pas grand-chose à dire, mais certains d'entre vous ont peut-être des questions concernant la séance de révision d'hier soir, quelque chose qui manque dans vos notes, ou quelque chose sur lequel vous n'êtes pas clair ou autre. Donc, je vous donnerai une chance de le faire vers la fin du cours. Mais commençons par la prière, puis nous examinerons le livre des Éphésiens. Père, nous te remercions de nous avoir soutenus physiquement et intellectuellement et de nous avoir donné la capacité de réfléchir et d'analyser ta communication sous la forme du Nouveau Testament. Seigneur, je prie pour que nous devenions plus conscients de la distance qui nous sépare des lecteurs originaux et du contexte original afin que nous puissions mieux comprendre comment ce texte continue de nous parler aujourd'hui en tant que révélation continue pour nous, en tant que votre peuple aujourd'hui. Je prie pour que nous ayons une plus grande appréciation et une meilleure compréhension du livre des Éphésiens et, à la lumière de cela, de ce que signifie vivre comme votre peuple aujourd'hui dans ce monde. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. D'accord. Nous avons commencé à parler du livre des Éphésiens lors de la dernière période de cours en parlant brièvement de sa structure et du fait que les Éphésiens peuvent naturellement être divisés en deux segments fondamentalement égaux. Les trois premiers chapitres correspondent à l'indicatif, qui est une section fortement théologique qui décrit ce que nous avons en Christ et qui nous sommes en vertu de notre union avec Christ. La deuxième section, les chapitres 4 à 6, articule les ramifications éthiques de cela, c'est-à-dire l'impératif ou ce qui devrait être vrai à la suite des chapitres 1 à 3 à la suite de l'indicatif de ce que l'impératif devrait alors naturellement suivre. Nous avons également commencé à examiner un peu ce qui aurait pu être l'occasion qui a poussé Paul à écrire le livre des Éphésiens et nous avons dit que l'une des difficultés est que la plupart des étudiants du Nouveau Testament ne savent pas exactement pourquoi Paul a écrit le livre des Éphésiens et ne sont pas sûrs de la raison pour laquelle Paul a écrit le livre des Éphésiens. Quant à savoir s'il y avait une crise ou une difficulté précise ou une sorte d'enseignement déviant, comme nous l'avons vu dans le livre de Galates où il est beaucoup plus facile dans Galates de comprendre quel a pu être le problème. Mais dans Éphésiens, il n'y a pas eu de consensus, et même si ceux qui sont d'accord ou pensent qu'il y a une sorte de problème, ils ne sont pas d'accord sur ce que c'est précisément. Pour cette raison, un certain nombre de personnes pensent que Éphésiens a en fait été écrit à la ville d'Éphèse, mais qu'il était censé être une lettre circulaire, c'est-à-dire une lettre qui devait circuler dans différentes églises d'Asie mineure et c'est pourquoi Éphésiens ne le fait pas. Il ne semble pas y avoir un problème ou un problème spécifique auquel il répond. Nous avons dit qu'une exception à cela était un érudit du Nouveau Testament nommé Clinton Arnold qui, je l'ai dit, enseigne au Talbot Theological Seminary en Californie et il a suggéré que les Éphésiens abordaient un problème ou une crise spécifique et qu'il s'agissait du ou des problèmes associés à la magie. Nous avons considéré la magie comme, j'en suis convaincu, au premier siècle, elle aurait été vue dans un contexte religieux, et non comme nous la traitons aujourd'hui, même si même au premier siècle, certains aspects de la magie étaient perçus négativement, même dans le monde gréco-romain. Mais Arnold suggère que la magie en termes de magie étant une compréhension, elle commence par comprendre que le monde entier derrière le monde empirique se trouve un monde spirituel dominé par des êtres spirituels à la fois positifs et négatifs et que ce que la magie faisait était un moyen de contrôler ou de contrôler. Manipuler ou supplier ces êtres spirituels d'agir en votre nom ou de nuire à vos ennemis, ceux avec qui vous ne vous entendiez pas. Ainsi, par les sorts et incantations appropriés et en prononçant les noms divins et des choses comme ça, on peut manipuler le monde spirituel ou espérer le contrôler pour son bénéfice et encore parfois même pour nuire à ses ennemis. Arnold suggère donc que la magie était en réalité très répandue et répandue dans le monde gréco-romain du 1er siècle, en particulier dans cette région de l'Asie mineure ou de la Turquie actuelle. Il suggère alors que Paul s'adressait à des lecteurs passionnés ou peut-être vivant dans la peur de ces puissances maléfiques qui contrôlaient et dominaient le monde. Et donc, ce qu'Arnold fait alors, c'est écrire pour assurer aux lecteurs qu'ils n'ont pas besoin de craindre ces pouvoirs spirituels, ces dirigeants hostiles et ces êtres spirituels et qu'ils n'ont pas besoin de recourir à la magie pour vaincre cela, mais que Jésus-Christ les a vaincus. Puissance du mal. Nous avons donc examiné tout le langage du pouvoir dans Éphésiens, l'accent mis sur les dirigeants, les autorités et les pouvoirs qui, selon Arnold, étaient ces pouvoirs et dirigeants hostiles que la magie essayait de contrôler et de manipuler, ces pouvoirs et êtres spirituels qui se cachent derrière le monde. Il a dit qu'il n'est pas nécessaire pour les lecteurs d'Éphésiens de recourir à la magie ou de craindre ces choses, mais qu'au lieu de cela, Jésus-Christ les a vaincus. Ainsi, les références à Jésus-Christ assis bien au-dessus des dirigeants, des autorités et des pouvoirs, comme le suggère Arnold, sont la façon dont Paul montre qu'il combat cette tendance à la magie, cette préoccupation pour le monde spirituel. Bien que cela soit devenu très courant, en fait, un certain nombre de livres que j'ai lus sur les Éphésiens ont été convaincus par l'approche d'Arnold selon laquelle Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphésiens dans un problème très spécifique qui est le problème de la magie. Je vais vous suggérer une manière différente de lire Éphésiens et cela commence par un scénario probable selon lequel Éphésiens manque d'une situation très spécifique pour une raison. La raison pour laquelle je pense que beaucoup d'étudiants d'Éphésiens et d'érudits du Nouveau Testament n'ont pas été capables de trouver un but spécifique ou un non-but, mais un problème ou une question spécifique derrière Éphésiens, comme un faux enseignement, est probablement parce qu'ils n'y en avaient pas, aucun. Véritable crise spécifique ou enseignement tel qu'on en trouve dans le livre des Galates. En fait, l'absence d'une situation spécifique peut probablement être vue dans le tout premier verset du livre des Éphésiens ou dans les deux premiers versets où il commence en fait comme n'importe quelle autre lettre de Paul, des lettres typiques et c'est là que Paul commence en s'identifiant, Paul apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu auprès des saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles au Christ Jésus. Grâce à vous et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vous pourriez vous demander, cela n'a-t-il pas simplement identifié les lecteurs comme étant les saints d'Éphèse? Ce qui est intéressant, c'est que cela remonte à notre discussion du début du semestre sur la manière dont le Nouveau Testament nous a été transmis. Comme vous le savez, nous ne possédons aucun des documents originaux écrits par les auteurs du Nouveau Testament. Par exemple, nous n'avons pas le texte original des Éphésiens, la lettre originale écrite par Paul. Au lieu de cela, nous avons des copies de ces lettres qui ont été préservées tout au long des premiers siècles de l'Église primitive, car elles étaient copiées avant l'avènement de l'imprimerie et maintenant des ordinateurs, où il est plus facile que jamais de communiquer électroniquement ou de transmettre des informations. Dans les premiers siècles de l'Église, ils se contentaient de copier, ce qui représentait un processus plutôt laborieux à bien des égards. Ils ont copié les documents du Nouveau Testament au fur et à mesure de leur transmission et ont commencé à se répandre dans l'Église primitive. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre des manuscrits les plus anciens et ceux qui sont considérés comme les meilleurs manquent de cette petite phrase à Éphèse. Et j'ai tendance à suivre ces manuscrits. Je suis donc convaincu qu'à l'origine, Paul n'a pas écrit à Éphèse. Et probablement en raison de l'importance de la ville d'Éphèse, cela aurait très probablement été ajouté par un scribe ultérieur à un moment donné, alors que le livre des Éphésiens était copié et diffusé. Donc, je suis convaincu que Paul n'écrivait pas spécifiquement à l'église d'Éphèse. En fait, je pense que Paul écrivait intentionnellement cette lettre que nous appelons Éphésiens comme une lettre générale destinée à être diffusée et lue aussi largement que possible. En d'autres termes, je pense qu'il s'adressait simplement aux chrétiens vivant généralement dans l'Empire gréco-romain, vivant dans cette partie de l'Asie mineure. Éphèse aurait été l'une des villes où cette lettre serait parvenue. Mais ce n'était pas la seule ville. Encore une fois, Paul écrivait une lettre très générale, n'abordant aucun problème, crise ou faux enseignement spécifique. C'était juste, à mon avis, une suggestion selon laquelle Paul aurait écrit une lettre générale aux chrétiens les encourageant à vivre leur foi dans le contexte de l'Empire romain, dans le contexte de la Rome impériale. Ainsi, Paul écrit une lettre générale d'exhortation aux chrétiens pour les encourager dans leur foi alors qu'ils tentent de vivre leur foi dans le contexte de l'Empire gréco-romain. Je ne suis pas sûr de ce que sont les manuscrits qui n'avaient pas d'Éphèse à Éphèse et ceux qui en avaient, je ne suis pas sûr géographiquement d'où ils venaient. Ce serait intéressant à découvrir. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui n'en ont pas à Éphèse qui ne sont pas originaires de la région d'Éphèse et certains qui la contiennent qui ne sont pas originaires non plus. Donc, je ne sais pas. Ce serait intéressant à comprendre, mais je ne suis pas sûr qu'il existe une corrélation entre les manuscrits qui se trouvent à Éphèse et ceux qui n'en ont pas, et la région d'où ils proviennent. Vous avez raison, ce serait intéressant de retrouver cela, si possible. Est-ce quelque chose que vous voyez dans l'un des autres? Oui, ce n'est pas le cas. Pour autant que je sache, avec les lettres de Paul, toutes les autres, à l'exception des Romains, ont quelque chose d'intéressant qui se passe dans cela aussi, en ce qui concerne cette phrase, à Rome. Et Romains est souvent, chose intéressante, comme Éphésiens, Romains est une autre lettre dans laquelle il est très difficile de dire exactement pourquoi Paul. Il ne semble pas aborder une crise ou un problème spécifique comme il le fait en Galatie. Il est donc intéressant de noter que l'autre lettre pose des questions quant à savoir si Rome ou quoi que ce soit inclus dans le livre des Romains. Dans la plupart des autres lettres, je ne pense pas que Paul ait écrit qu'il y ait une quelconque divergence ou une question quant à savoir si l'identification des lecteurs dans nos Bibles était ce que Paul a réellement écrit ou non. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la plupart d'entre eux sont des descriptions exactes. Mais les Éphésiens et les Romains, pour autant que je sache, et en particulier les Éphésiens, sont les seuls à avoir des manuscrits divisés quant à savoir si le nom du destinataire était celui que Paul a réellement écrit. Et donc, avec Éphésiens, je pense que vous pourriez faire valoir que cette phrase à Éphèse n'était pas là. En d'autres termes, techniquement, ce n'est pas la lettre aux Éphésiens. Techniquement, il s'agit d'une lettre générale que Paul a écrite à un certain nombre d'églises, de chrétiens et de villes d'Asie mineure, dont Éphèse aurait sans aucun doute été l'une de ces villes. Encore une fois, ce que cela signifie, c'est que Éphésiens est l'un des livres dans lesquels Paul et moi avons changé d'avis à ce sujet au cours des trois dernières années, mais Éphésiens, je pense, est l'une des lettres dans lesquelles Paul n'abordait aucune crise particulière. Mais encore une fois, il est simplement conscient des luttes auxquelles les chrétiens en général sont confrontés lorsqu'ils tentent de vivre leur vie dans l'environnement hostile de la Rome païenne et de l'Empire romain. C'est pourquoi il écrit une lettre d'encouragement très générale à ces chrétiens pour les aider à établir leur identité, pour les aider à faire face à la pression de la vie dans la Rome païenne. Et probablement rien de plus précis que ça. À mon avis, cela expliquerait pourquoi de nombreux érudits ont eu du mal à trouver un objectif spécifique pour les Éphésiens, contrairement aux Galates, où nous pouvons facilement en déterminer un, je pense. Très bien, cela signifie donc que nous devons probablement trouver une raison différente pour expliquer pourquoi toute cette insistance sur le pouvoir, la force et l'autorité, et pourquoi cette insistance sur la domination de Jésus sur toutes les autorités, les dirigeants et les pouvoirs et ces êtres spirituels dans la terre, si ce n'est pas principalement de la magie, alors que fait Paul? Pourquoi parle-t-il comme ça? Et une chose très intéressante est que la christologie des Éphésiens, ou ce que disent les Éphésiens à propos de Jésus-Christ, est à bien des égards différente de ce que l'on trouve dans les autres lettres de Paul, où l'on ne met pas autant l'accent sur Jésus en tant que Messie, en tant que Sauveur, qui a renoncé à sa vie pour expier les péchés de l'humanité et les justifie donc. Vous ne trouvez pas le langage de la justification ou ce genre de langage que vous trouvez, Jésus en tant que fils de David, Messie. Vous ne trouvez pas autant ce langage dans les Éphésiens. Au lieu de cela, le Christ est davantage décrit comme le dirigeant cosmique de l'univers entier. Encore une fois, c'est un peu différent de la façon dont il est décrit, par exemple, dans les quatre évangiles, où Jésus était représenté comme le fils de David, le fils d'Abraham, comme le serviteur souffrant dans Marc, etc., etc. Ici, Jésus est dépeint comme le souverain de l'univers entier, comme le Seigneur du cosmos tout entier. Et donc, nous devons nous demander pourquoi Paul a-t-il décrit Jésus de cette façon. Si ce n'est pas la magie qui a amené Paul à décrire Jésus comme le dirigeant de tout l'univers et de ses pouvoirs et autorités, de ses êtres spirituels, alors d'où Paul a-t-il eu cette idée? Que essaie-t-il de faire? Revenons donc à cette idée de réconciliation cosmique. Je vous ai dit que le thème principal des Éphésiens, je pense, est la réconciliation cosmique. Autrement dit, toutes choses sont réconciliées et toutes choses dans l'univers entier sont réconciliées avec Jésus-Christ, ce qui semble être le thème principal. Par exemple, je pense que ce thème commence au chapitre 1 et au verset 9 et 10. Maintenant, encore une fois, j'ai lu cette dernière période de cours, mais j'écoute attentivement. Paul dit que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir qu'il a exposé en Christ. En tant que plan, autrement dit sa volonté, voici sa volonté. Sa volonté est un projet pour la plénitude des temps pour rassembler ou résumer ou réconcilier toutes choses en lui, c'est-à-dire en Christ, les choses du ciel et les choses de la terre. À mon avis, cela pourrait être considéré comme résumant tout le thème des Éphésiens. Autrement dit, la volonté de Dieu, son intention, est qu'en fin de compte, tout trouve sa juste place en Jésus-Christ. Autrement dit, toutes choses seront résumées, toutes choses dans le cosmos, les choses sur terre et dans les cieux seront toutes résumées et trouveront la place qui leur revient en Jésus-Christ, la relation légitime avec Christ. Ce qui est intéressant, c'est que, plus loin dans le chapitre 1, Paul est convaincu que ce plan a déjà été mis en œuvre. Encore une fois, ce sera la version de Paul. Rappelez-vous que nous avons parlé du déjà mais pas encore, que Jésus a dit que le royaume était déjà là mais qu'il n'est pas encore venu. C'est un peu la version de Paul. Paul est convaincu que le jour futur où Dieu réconciliera toutes choses avec Christ, le cosmos entier sera réconcilié et mis dans une bonne relation avec Christ, Paul est convaincu que cela a déjà été mis en mouvement. Parce que voici ce qu'il dit, je viens de lire pour vous le chapitre 1 verset 9 et 10. Voici quelques versets plus loin. Cela commence par le chapitre 1 et les versets 19 et la section suivante, 19 à 21 dans vos notes. Et il veut que ses lecteurs comprennent quelle est la grandeur incommensurable de son pouvoir, il y a encore ce langage de son pouvoir pour nous qui croyons. Selon l'action de sa grande puissance, cela fait référence à Dieu. Dieu a mis cette puissance à l'œuvre en Christ lorsqu'il a ressuscité Christ d'entre les morts, et je veux que vous écoutiez cela attentivement, et que vous l'ayez assis à la droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute règle, autorité, puissance, domination et au-dessus. Chaque nom qui est nommé, non seulement dans cet âge mais dans l'âge à venir. Alors, qu'est-ce que Paul vient de dire ? Il a dit qu'avec la mort et la résurrection du Christ et son exaltation au ciel, cette réconciliation cosmique a déjà commencé. C'est parce que Jésus est maintenant, du fait qu'il a été exalté au ciel à la droite de Dieu, remarquez que Paul a dit qu'il a été exalté bien au-dessus de tout dirigeant, autorité et domination. Ainsi, cette réconciliation qui est celle de Dieu, celle de Paul, sera réconciliée avec Christ. Paul est convaincu que cela a déjà eu lieu grâce à la mort et à la résurrection du Christ, et à sa place au ciel en tant que Seigneur de l'univers entier. Maintenant, alors, d'où Paul tire-t-il ce langage, alors, selon lequel Jésus est ce langage de pouvoir et Jésus est le Seigneur de l'univers, et tous ses pouvoirs, dirigeants, dominations et autorités soumis à Jésus-Christ? Où trouve-t-il ça? Et en passant, permettez-moi simplement de dire que je suis convaincu tout au long de la lettre aux Éphésiens, lorsque Paul parle de dirigeant, de domination et d'autorité, il parle d'eux, il ne fait pas référence aux autorités physiques et aux dirigeants, comme l'Empire romain. Je pense qu'il fait toujours référence à ces pouvoirs et êtres spirituels qui, d'une certaine manière, gouvernent l'univers. Mais où trouve-t-il ce langage ? Paul remonte en fait à l'Ancien Testament et s'appuie sur les psaumes pour démontrer que Jésus est le souverain cosmique de l'univers. Remarquez que Paul vient de dire, dans les versets que je viens de lire, que Jésus a été exalté et assis à la droite de Dieu. D'où lui vient cette idée d'être assis à la droite de Dieu? Cela vient du psaume 110, qui est un psaume qui fait en réalité référence au roi, le fils de David, qui finirait par régner sur le monde entier. Et ainsi, dit le psaume 110, le Seigneur a dit à mon Seigneur, c'est-à-dire que Dieu s'est adressé au Seigneur, le Messie, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de ton ennemi mon marchepied. Eh bien, n'est-ce pas exactement ce que Paul a dit? Il a dit que Jésus-Christ était assis à la droite, bien au-dessus de tout dirigeant et domination. Les ennemis qui sont désormais son marchepied sont les dirigeants spirituels, les autorités et les puissances des royaumes célestes. Donc, fondamentalement, Paul dessine, je pense d'où il tire cette notion de dirigeant, d'autorité et de pouvoir, et cette idée de Jésus en tant que dirigeant cosmique de l'univers n'est pas pour la magie. Je pense qu'il retourne à l'Ancien Testament et s'appuie sur un texte comme le psaume 110 qui dépeint le Messie, le roi que Dieu nommerait assis à la droite de Dieu, qui est un symbole de pouvoir et d'autorité et régnant sur ses ennemis, ce qui Paul identifie comme ses dirigeants spirituels, ses puissances et ses autorités qui sont hostiles, mauvaises et hostiles au peuple de Dieu. Donc, vous devez le savoir. Vous aurez besoin de connaître ce texte au cas où cela se produirait lors d'un examen ou quelque chose comme ça. Vous devez savoir que le psaume 110 constitue le fondement de la compréhension de Paul de la Seigneurie du Christ. Un autre texte, le psaume 8, vous le connaissez probablement, mais c'est un psaume qui remonte en réalité à la création. Et, Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est majestueux sur toute la terre. Vous les avez créés, c'est-à-dire Adam et Ève, l'humanité. Cela fait référence à Genèse 1 et 2. Vous avez fait d'eux, l'humanité, un peu inférieur aux anges. Vous les avez couronnés de gloire et d'honneur. Tu leur as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous leurs pieds. Il est intéressant de noter que l'auteur de l'Épître aux Hébreux applique ce psaume à Jésus-Christ. Et je pense que Paul fait la même chose. Encore une fois, ce que dit Paul, c'est que, en accomplissement de l'Ancien Testament, Jésus est maintenant entré dans son règne cosmique. Il est entré dans son règne en tant que Seigneur sur l'univers entier. Il a déjà vaincu ses ennemis, qui ne sont pas Rome, mais les pouvoirs, les dirigeants et les puissances spirituelles qui se cachent derrière Rome. Jésus les a maintenant vaincus. Il a maintenant été élevé au ciel, assis à la droite, et règne sur l'univers entier, y compris ses pouvoirs spirituels. Maintenant, vous pourriez vous demander, qu'est-ce que cela a à voir avec le fait que les chrétiens vivent leur vie dans l'Empire romain? Je veux dire, laissez-moi vous demander, pourquoi Paul n'a-t-il pas dit clairement, Jésus est le Seigneur de César et de l'Empire romain? Pourquoi n'a-t-il pas dit ça? Pourquoi dit-il plutôt, Jésus est le souverain de l'univers et ses ennemis qu'il a vaincus sont maintenant sous ses pieds? Être sous les pieds était un signe de soumission et de conquête. Or, ses ennemis sont les dirigeants spirituels et les autorités des royaumes célestes. Pourquoi Paul n'a-t-il pas dit que Jésus avait maintenant placé Rome et César sous ses pieds? Pourquoi Paul? Encore une fois, si j'ai raison de dire, Paul s'adresse aux chrétiens qui sont. Il essaie de les encourager alors qu'ils vivent leur vie dans l'environnement hostile de la domination romaine et de l'autorité romaine. Si Paul s'adresse à ces chrétiens, à quoi cela lui servira-t-il de parler en termes de Jésus qui a été exalté au ciel et qui règne sur ses ennemis, qui sont ses dirigeants, autorités et puissances spirituelles? Pourquoi Paul ne dit-il pas, Jésus règne sur Rome et César est maintenant sous ses pieds? César est vivant avec lui alors que Jésus ne l'est pas et est Dieu lui-même. D'accord. Donc, vous suggérez alors ce que Paul essaie de. Paul essaie de se concentrer sur une image beaucoup plus vaste que simplement ce. Il regarde le monde et voit César sur le trône. Juste en flagrant délit. D'accord. Bien. Je pense que c'est bien. D'autres idées? Pourquoi Paul pourrait-il parler de cette façon? Encore une fois, on pourrait penser que Paul sortirait et dirait, « Chrétiens, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas et soyez encouragés car Jésus a vaincu César et l'Empire romain et Jésus est assis bien au-dessus de Rome et il les a soumis sous ses pieds et maintenant Jésus règne sur toute chose. » Pourquoi Paul? Et je pense que c'est une bonne suggestion. C'est pour toute autre raison que Paul pourrait parler de cette façon. Pourquoi Paul dit-il plutôt que Jésus-Christ a été exalté bien au-dessus de ses dirigeants et autorités spirituelles? Encore une fois, chaque fois qu'il parle dans Éphésiens de dirigeants, d'autorités et de pouvoirs, je pense qu'il parle de ces êtres spirituels maléfiques qui gouvernent l'univers. Cela renvoie à l'idée que depuis la chute, depuis que Satan tente Adam et Ève dans le jardin, le monde devient le royaume de Satan. Il en est désormais le roi et le dirigeant. Vous voyez cette idée dans le Nouveau Testament à plusieurs endroits. Et donc, c'est Satan et ses êtres maléfiques qui gouvernent l'univers. Alors, Jésus. C'est intéressant dans Éphésiens, Jésus parle de... où Paul parle de Jésus exalté et vainquant ses êtres spirituels maléfiques. Pourquoi ne parle-t-il pas de Jésus régnant sur Rome? Je veux dire, certainement, si je suis un chrétien vivant à Rome, dans l'Empire romain, et que je lutte pour vivre ma foi dans cet environnement hostile où Rome règne, en me demandant si je dois prêter allégeance à l'Empire romain ou à Jésus, pourquoi Paul parlerait-il comme ça? Le Sauveur, Jésus, tout le monde a commencé à penser qu'il allait renverser Rome. Alors il leur a dit de vivre à Rome. D'accord, bien. Ouais. Vous avez abordé un point très important. Si vous avez entendu ce qu'elle a dit, elle a suggéré tout comme. Vous souvenez-vous de l'évangile de Marc, où Jésus n'allait pas proclamer qu'il était le roi et le Messie. Parce que les gens pourraient mal le comprendre et penser qu'il est venu pour anéantir Rome et renverser César. Mais ce qui est intéressant aussi, quand vous regardez la vie de Jésus, ce que Jésus a fait, c'est qu'il est venu à. Et c'est intéressant, que l'ennemi qu'il vient vaincre dans les évangiles chasse les démons. Il s'en prend à. En d'autres termes, il semble s'en prendre au pouvoir spirituel qui se cache derrière les pouvoirs physiques sur terre. Et je me demande si c'est aussi ce qu'il fait dans Éphésiens. Comme vous l'avez dit, il ne veut pas que les lecteurs pensent qu'il est venu renverser Rome et qu'en tant que Messie, il a vaincu Rome. En fait, ils peuvent regarder autour d'eux et constater que ce n'est pas vrai. Mais cela ne veut pas dire que Jésus n'a pas remporté la victoire. C'est parce que ce que dit Paul, Jésus a remporté la victoire en battant. En d'autres termes, alors qu'il regarde le monde empirique, et voit Rome aux commandes, ce que Paul a dit, c'est que cela n'a pas d'importance. Cependant, parce que Jésus a déjà remporté la victoire en battant les puissances qui se cachent derrière Rome. Autrement dit, ses dirigeants spirituels hostiles. En fait, cette idée était. Vous pourriez dire, eh bien, cela ressemble beaucoup à la proposition de Clinton Arnold concernant la magie, ses pouvoirs spirituels. Mais cette idée était présente dans des livres comme Apocalypse. Quand vous arriverez à l'Apocalypse, nous verrons que ce qu'elle faisait montre que le monde romain avait déjà été vaincu. Jésus avait déjà remporté la victoire, mais il l'a fait en vainquant les puissances du mal. Une autre façon de le dire est souvent que, dans un livre comme l'Apocalypse, l'Empire romain est dépeint comme les êtres spirituels démoniaques qui se cachent derrière lui. Donc, je pense que ce que Paul fait, c'est essayer de démontrer à ses lecteurs, écoutez, quand vous regardez le monde et que vous voyez Rome aux commandes et César toujours sur le trône, cela ne signifie pas que Jésus a été vaincu ou que tu as été vaincu. En fait, Jésus a remporté la victoire. Il est monté au ciel et est assis sur son trône régnant sur le cosmos. Il a vaincu ses ennemis, mais les ennemis qu'il a vaincus sont ses dirigeants et autorités spirituelles qui se cachent derrière les pouvoirs physiques. Donc, en d'autres termes, oui, Rome est toujours aux commandes et César est sur le trône, mais leurs jours sont comptés parce que Jésus a déjà vaincu les puissances du mal. Donc, ce que cela suppose, c'est le monde physique que l'on voit, dit Paul, que derrière le monde physique se trouve un monde spirituel qui, d'une manière ou d'une autre, détermine ce qui se passe. Jésus a déjà remporté la victoire dans le monde spirituel et a déjà vaincu ses ennemis, conformément au psaume 8 et 110. Alors, de quoi ont-ils à craindre alors qu'ils tentent de vivre leur vie dans l'Empire romain? Ils n'ont pas besoin de reculer devant les prétentions de Rome. Ils peuvent vivre leur vie en tant que peuple de Dieu et avec audace parce qu'ils savent que Christ a déjà remporté la victoire dans le monde spirituel et que le monde physique suivra bientôt. Maintenant, deux autres passages importants en relation avec la réconciliation cosmique. Chapitre 2, novembre 2021. mais Paul veut aussi dire que non seulement Jésus a remporté une victoire dans le monde spirituel, en d'autres termes, non seulement le monde spirituel a commencé à se réconcilier, mais aussi le monde physique. Rappelez-vous, dans Éphésiens 1, 10, Paul a dit, « Le plan de Dieu est de réconcilier toutes choses au ciel et sur la terre. » Eh bien, il nous a déjà dit que Jésus avait déjà vaincu les dirigeants spirituels et les autorités, et que le ciel avait donc commencé à se réconcilier. Mais qu'en est-il de la terre? Au chapitre 2, verset novembre 2022, Paul raconte cette section assez longue qui montre qu'à travers la mort de Jésus-Christ, et nous revenons ici à un thème que nous avons vu plusieurs fois dans les lettres de Paul et dans les Actes, juifs et gentils ont été réconciliés, et Paul utilise ce langage, réconcilier les uns avec les autres dans une nouvelle personne, dans une nouvelle humanité, dans un seul corps. Alors pourquoi dit-il ça? Il démontre simplement que ce processus de réconciliation a déjà eu lieu dans le royaume terrestre par Dieu réconciliant deux peuples opposés ou antérieurs qui étaient auparavant en inimitié l'un envers l'autre, les Juifs et les Gentils. Il les a maintenant réconciliés et les a réunis dans le domaine terrestre, signe que cette réconciliation a déjà eu lieu. Encore une fois, ce que montrent les Éphésiens, c'est que ce jour, au chapitre 1, ce jour où Dieu a promis que selon sa volonté, toute chose au ciel et sur la terre serait réconciliée avec Dieu, ou avec Jésus-Christ, a déjà commencé. En étant élevé par Jésus au-dessus de ses dirigeants et autorités, et aussi en créant une nouvelle humanité, en réconciliant l'humanité en un seul corps, ce processus de réconciliation cosmique a déjà commencé. Donc, c'est un peu la version de Paul de ce qui est déjà fait, mais pas encore. Aujourd'hui, évidemment, elle n'a pas encore atteint son apogée et son apogée, ce qui sera le cas dans le futur, mais elle a déjà commencé. De la même manière, le royaume avançait déjà et était à l'œuvre dans le ministère de Jésus, même s'il n'était pas encore parvenu à sa perfection et à sa plénitude. Ainsi, de la même manière, Paul est convaincu que cette réconciliation de toutes choses avec Christ au ciel et sur la terre a déjà commencé par le Christ battant ses puissances, les puissances spirituelles cosmiques, et par le Christ réconciliant l'humanité dans cette Église, ce corps unique, le processus de réconciliation de toutes choses a déjà commencé et a été mis en branle. Cela nous aide à comprendre un autre verset intéressant, le chapitre 3 et le verset 10, où Paul décrit à nouveau la réconciliation des Juifs et des Gentils en un seul corps, et il dit, « Pour que chacun voie quel est le plan de Dieu, le plan du mystère caché. Depuis des siècles en Dieu, qui a créé toutes choses, de sorte que par l'Église, ceci est intéressant, par l'Église, dont Paul vient de nous dire qu'elle est composée ou se compose de Juifs et de Gentils réconciliés les uns avec les autres en un seul corps afin que par l'Église, la sagesse de Dieu dans sa riche variété pourrait être révélée aux dirigeants, aux autorités et aux puissances dans les lieux célestes. Pourquoi Paul dit-il cela? Je veux dire, qu'est-ce qu'il dit? Je veux dire, pour résumer, il dit à travers cette Église que Dieu a créée en réunissant Juifs et Gentils, en les réconciliant les uns avec les autres en un seul corps, à travers l'Église, la sagesse de Dieu est maintenant montrée à ses dirigeants et autorités dans les lieux célestes. Encore une fois, je suppose que chaque fois que Paul, dans Éphésiens, mentionne des dirigeants, des pouvoirs, des autorités, il parle de ces êtres spirituels mauvais qui se cachent derrière le monde, comme nous le lisons dans des livres comme l'Apocalypse. Que dit Paul quand il dit que l'Église, composée de Juifs et de Gentils réconciliés les uns avec les autres, à travers l'Église, les puissances spirituelles peuvent voir la sagesse de Dieu? Pourquoi Paul dit-il cela? Je veux dire, pourquoi cela serait-il intéressant? Pourquoi l'Église, qui est une humanité réconciliée, ferait-elle partie de ce processus de réconciliation? Pourquoi serait-elle d'un quelconque intérêt pour ses dirigeants, autorités et puissances dans les royaumes célestes, ces êtres spirituels mauvais qui sont hostiles au peuple de Dieu, que Christ est maintenant assis bien au-dessus? Pourquoi l'Église les intéresserait-elle? Que sont-ils censés voir? Oui, cela parle de la sagesse de Dieu, mais sont-ils simplement censés dire, « Oh, regardez à quel point Dieu est sage en mettant ses Juifs et ses Gentils dans cette seule Église. » Qu'est-ce que cela est censé faire à ces puissances maléfiques? Quand ils voient cette nouvelle humanité, cette Église, composée de Juifs et de Gentils réconciliés dans cette seule nouvelle humanité, dans ce seul corps, qu'est-ce que cela fait pour ces puissances mauvaises, hostiles et hostiles dans le monde spirituel? C'est exact. C'est une démonstration que leur temps est écoulé. Dieu les a vaincus. Ce processus de réconciliation cosmique, qui pour ses puissances maléfiques signifie leur défaite, quand ils voient l'Église composée de juifs et de gentils réconciliés en un seul corps, c'est un signe que leur défaite a déjà eu lieu et que leur temps est écoulé. Donc, pour résumer, ce qui se passe dans Éphésiens dans ce thème de la réconciliation cosmique est, premièrement, l'hypothèse que vous voyez des allusions à cela dans Éphésiens, mais Paul ne le dit pas directement. L'hypothèse est que l'univers entier, la partie physique et céleste de l'univers, l'univers entier que Dieu a créé, a subi une dislocation ou une perturbation à cause du péché. Et donc, à cause du péché, l'univers entier est désormais sous le contrôle de ses puissances maléfiques et hostiles. C'est pourquoi Jésus est venu chasser les démons. C'était un signe que la domination des puissances, de ces puissances hostiles, sur le monde était maintenant brisée et que le royaume de Dieu était maintenant en train de l'envahir. Mais l'hypothèse de Paul est que le monde entier a subi une dislocation à cause du péché et qu'à cause de ce péché, l'univers tout entier, physique et non physique, est sous la domination de ces puissances spirituelles maléfiques. Ce qui serait Satan et ses démons serait une autre façon de le dire. Ainsi donc, l'intention de Dieu est qu'en fin de compte, l'univers entier doive être remis en ordre. Le problème numéro 1 doit être résolu. Que le cosmos tout entier, l'univers tout entier, doit être sauvé de son asservissement au péché et aux puissances du mal. Et il faut le restaurer. Et donc, l'intention de Dieu est que cela se produira à travers Jésus-Christ. Revenons encore au chapitre 1, verset 10. Le plan de Dieu est que toutes choses soient réconciliées avec Christ. Toutes choses seront résumées en Christ. Paul est également convaincu qu'à travers la mort du Christ sur la croix, et à travers sa résurrection et son exaltation au ciel, le Christ a déjà commencé et inauguré ce processus de réconciliation de toutes choses dans le ciel et sur la terre, dans le cosmos tout entier avec lui-même. Jésus a déjà vaincu ses puissances maléfiques. Il a déjà été élevé à la droite de Dieu, bien au-dessus de ses dirigeants, autorités et puissances. Il a déjà commencé le processus de réconciliation du cosmos tout entier, de l'univers entier avec lui-même. Mais Paul dit aussi que l'Église, cette nouvelle humanité, cette nouvelle entité, ce corps composé de juifs et de gentils qui ont été réconciliés ensemble, l'Église est la première étape et le moyen par lequel cette réconciliation aura lieu sur terre. Encore une fois, non seulement Christ a commencé à réconcilier les cieux avec lui-même en vainquant les puissances du mal, mais en unissant l'humanité, en sauvant l'humanité des puissances du mal et en les unissant en un seul corps, l'Église, il a également entamé le processus de réconcilier toutes choses sur terre. Encore une fois, c'est déjà la partie. C'est déjà commencé. Il est évident qu'elle n'a pas encore eu lieu dans sa perfection et sa plénitude. De la même manière que le Christ, avec la venue de Jésus-Christ, le royaume était déjà présent. Les hommes et les femmes pouvaient entrer dans le royaume et expérimenter sa domination et son pouvoir, avant sa pleine manifestation dans le futur. De la même manière, Paul est convaincu que ce processus de réconciliation de toutes choses avec Christ a déjà commencé au ciel et sur terre, avant son accomplissement complet et final un jour dans le futur. Et encore une fois, pourquoi Paul parle ainsi, c'est qu'il veut que ses lecteurs placent l'Empire romain et leur situation dans ce contexte. Maintenant, ils peuvent voir qu'ils n'ont rien à craindre et qu'ils n'ont pas besoin de reculer devant Rome, et ils ont le courage de vivre leur vie dans cet environnement romain hostile et dans ce monde romain, car ils savent que dans les coulisses, ce qu'ils voient empiriquement, c'est une image complètement différente. Il y a un processus de réconciliation, dans lequel Christ a déjà vaincu les puissances qui se cachent derrière toute autorité physique ou tout pouvoir auquel ils devront faire face sur terre dans l'Empire romain. Donc personnellement, c'est là que je pense que Paul comprend l'idée de tout ce langage de pouvoir et l'idée de Jésus battant ses dirigeants et autorités spirituelles. Je ne pense pas que cela vienne de la magie, je pense que cela vient de l'Ancien Testament, et de la compréhension de Paul, telle qu'on la trouve dans le livre de l'Apocalypse, selon laquelle derrière le monde physique se trouve un monde spirituel qui l'affecte et le détermine, et il veut démontrer que Jésus a déjà conquis ce monde spirituel. Tout ce qui reste à faire est de mettre en œuvre cela sur terre, ce qui a déjà commencé avec Jésus réconciliant juifs et gentils en un seul corps en tant qu'agent de création, apportant la réconciliation dans le monde. Des questions à ce sujet. Je voudrais examiner très brièvement le tout dernier chapitre d'Éphésiens, qui, si vous savez quelque chose sur Éphésiens, est probablement le texte auquel votre esprit saute automatiquement. L'autre serait le chapitre 2, au chapitre 2, juste au milieu du chapitre 2, où Paul dit que, par la grâce, nous sommes sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, pas un don d'œuvre dont personne ne se vantera. Beaucoup d'entre nous connaissent ce texte qui, fait intéressant, s'inscrit dans le contexte de Dieu nous sauvant de l'esclavage du péché et des puissances du mal. Des questions jusqu'à présent sur les Éphésiens. Qu'en est-il du chapitre 6 d'Éphésiens, le passage dit du combat spirituel, où, vers la fin du livre du chapitre 6, Paul décrit maintenant la vie chrétienne en utilisant des images de bataille ou de guerre, et décrit même les chrétiens comme devant se vêtir, métaphoriquement, certaines pièces ou pièces d'armure. Alors il commence, au verset 10, et finalement, il y a encore ce langage de pouvoir. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, les autorités et les puissances cosmiques de ces ténèbres actuelles, contre les forces spirituelles du mal. Il y a encore cette idée que l'on retrouve dans l'Apocalypse, selon laquelle derrière le monde physique se trouve ce monde spirituel gouverné par ces puissances maléfiques. En d'autres termes, cela revient au numéro 1. À cause du péché, l'univers tout entier est désormais soumis et sous la domination des puissances du mal. Et maintenant, Paul dit que vous devez donc être prêt à vous opposer à cela. Et puis il continue et dit, par conséquent, prenez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux mauvais jours. Levez-vous donc et attachez votre ceinture de vérité. Voilà donc la première pièce d'armure, la ceinture de vérité autour de votre taille. Et revêtez le pectoral de la justice. Comme chaussure à vos pieds, mettez ce qui vous prépare à proclamer l'évangile de paix. Avec tout cela, prenez le bouclier de la foi, afin d'éteindre les flèches enflammées du malin. Et prenez le casque du salut. Maintenant, l'une des questions, il y a en fait deux questions, est d'où Paul tire-t-il ce langage d'armure et ce langage de guerre? Encore une fois, Paul fait cela assez souvent dans ses lettres. Il comparera la vie chrétienne à différentes, il utilisera différentes métaphores. Il le comparera parfois aux événements sportifs. Il comparera cela à l'agriculture et à la construction. Ici, il utilise le langage de la guerre pour décrire et représenter la vie chrétienne. Et il décrit les chrétiens comme ayant besoin, car ils vivent dans ce genre de situation, dans un monde dominé par ces puissances spirituelles. Paul décrit maintenant les chrétiens comme ayant besoin de revêtir ces différentes pièces d'armure, qu'il identifie métaphoriquement comme la vérité et la foi et la justice, la paix et le salut. Maintenant, que devons-nous en penser? Et puis, deuxièmement, la question de savoir comment fonctionne le chapitre 6 dans le livre. Est-ce juste une sorte d'appendice? Ou en d'autres termes, est-ce que Paul arrive au chapitre 6 et décide, vous savez, je n'ai rien dit sur le combat spirituel, alors je pense que je vais en parler. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les chrétiens qui mènent une vie juste, qui mènent une vie sainte et qui suivent Jésus-Christ, et maintenant je devrais dire quelque chose sur le combat spirituel parce que je n'ai vraiment pas abordé ce sujet. Ou comment devrions-nous comprendre le chapitre 6? Tout d'abord, d'où Paul tire-t-il ses images d'armure? Au moins quand j'étais petite, on m'a toujours appris cela, et j'avais en tête cette image que Paul était quelque part en prison. C'est l'une des épîtres de prison, donc cela aurait du sens. Paul était en prison et enchaîné à un soldat romain. Et pendant qu'il écrivait ceci, il levait les yeux et voyait le casque et écrivait le casque du salut, levait les yeux et voyait son pectoral, le pectoral de la justice. Et il décrit essentiellement ce soldat romain qui se tenait peut-être à ses côtés ou qu'il avait observé. Et c'est de là qu'il tire ses images d'armure. Et cela aurait du sens. Il ne fait aucun doute que Paul connaissait très bien l'habit et la tenue de combat d'un soldat romain. Mais je ne suis pas convaincu que Paul comprenne cela. Au lieu de cela, je suis une fois de plus convaincu que Paul s'appuie sur l'Ancien Testament. Dans Ésaïe chapitre 59, l'auteur décrit Dieu de façon intéressante, et cela devient important, c'est une description de Dieu qui combat les ennemis d'Israël. Et l'auteur dit, lui, Dieu, a revêtu la justice comme une cuirasse, et un casque de salut sur sa tête. Il a revêtu les vêtements de la vengeance pour vêtements. En voici un autre. Isaïe 52.7, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Paul ne vient-il pas de dire de préparer vos pieds avec l'évangile de paix? Donc, ce que je pense que Paul fait, c'est s'appuyer sur l'Ancien Testament et savoir ce qu'il fait. Surtout à la lumière de ce verset dit que la même armure que Dieu a utilisée pour vaincre ses ennemis est maintenant la même armure que Paul appelle les chrétiens à revêtir. C'est presque comme s'il disait, cette armure est à votre disposition, et d'ailleurs, elle fonctionne. Cela a déjà été testé dans Ésaïe chapitre 59, et cela fonctionne. Encore une fois, je pense que Paul ne dépend pas tellement d'un soldat romain, mais une fois de plus, il démontre que le moyen même par lequel Dieu vainc ses ennemis est le moyen par lequel le peuple de Dieu va maintenant vaincre ses mauvais esprits et ses autorités dans le monde. Monde céleste. Remarquez la tension déjà mais pas encore. Au chapitre 1, Jésus-Christ a déjà vaincu ses ennemis. Rappelez-vous au chapitre 1, en étant élevé et exalté au ciel, il a déjà vaincu ses dirigeants et puissances spirituelles. Mais à cause du pas encore, il nous est désormais ordonné de vaincre les puissances du mal et de réaliser cette réconciliation cosmique. C'est donc le déjà mais pas encore, ou l'indicatif et l'impératif. L'indicatif, c'est déjà inauguré, cette réconciliation cosmique, cette défaite des puissances a déjà eu lieu par la mort et la résurrection du Christ. Mais maintenant, étant donné que ce n'est pas encore le cas, il est impératif que nous puissions encore mettre cela en pratique. Donc, à cause de cela, je ne pense pas que le chapitre 6 soit différent. Ce n'est pas un chapitre à part. Ce n'est pas comme si Paul disait tout ce qu'il voulait dire au chapitre 6 et au verset 9, et ensuite, oh, parlons du combat spirituel. C'est plutôt la conclusion du livre. C'est la façon dont Paul dit tout ce qu'il a déjà dit dans les cinq premiers chapitres. En fait, toutes ces pièces d'armure, la foi, la paix, la justice, la vérité et l'évangile, ont déjà été évoquées à de nombreuses reprises dans l'Éphésiens. Ainsi, le chapitre 6 est un résumé de l'ensemble du livre. Il examine simplement les chapitres 1 à 5 sous un angle différent, à travers le prisme de la guerre cosmique à laquelle les chrétiens font désormais partie. Mais encore une fois, la seule raison pour laquelle ils peuvent en faire partie est que le Christ a déjà, au chapitre 1, commencé cette réconciliation universelle en vainquant les puissances du mal. Maintenant, nous sommes censés faire cela aussi. L'autre chose intéressante à ce propos, cependant, c'est que lorsque nous réfléchissons à ce que signifie faire un combat spirituel, je ne veux pas dire que cela n'implique pas des choses comme chasser les démons et lier les puissances des ténèbres qui sont hostiles à eux. Nous, et des choses auxquelles nous pensons souvent lorsque nous pensons au combat spirituel. Nous pensons aux agressions sataniques contre nous spirituellement, et parfois nous pensons même à des choses comme la possession et l'influence démoniaque et à la nécessité de briser cela par divers moyens. Mais il est intéressant que si ce que j'ai dit est correct, Paul relie le chapitre 6 au chapitre 1 à 5 d'Éphésiens, de sorte que, du moins pour Paul, dans Éphésiens, la principale façon dont nous menons le combat spirituel est de vivre des vies caractérisées, au lieu de recourir aux dissensions et à la division, en menant une vie qui promeut la paix. Au lieu de mentir, nous disons la vérité. Au lieu de vivre de manière impure et immorale, nous vivons une vie caractérisée par la justice. Lorsque nous faisons cela, nous portons un coup et une défaite à ces puissances des ténèbres que Christ a déjà vaincues. Donc, je trouve intéressant que toutes ces pièces d'armure soient des choses que Paul a mentionnées au début dans Éphésiens. Donc, une autre façon de le dire est que la façon dont nous menons le combat spirituel consiste à vivre le genre de style de vie que Paul articule dans les cinq premiers chapitres des Éphésiens. Et quand nous faisons cela, nous nous joignons, dit Paul, nous faisons partie de cette bataille cosmique que le Christ a déjà gagnée dans les royaumes célestes, mais que nous continuons à mener jusqu'à ce que ce qui n'est pas encore arrivé dans le futur, quand tout sera réglé, finalement parfaitement et complètement réconcilié avec Christ. Très bien, des questions. Très bien, il nous reste quelques minutes, mais des questions sur l'examen. Permettez-moi simplement de dire que l'examen ressemblera au précédent en ce qui concerne sa durée et le type d'examen. C'est sur un matériau différent. Ce n'est pas dans les évangiles ou dans les documents historiques. Nous en avons parlé au début du semestre. C'est dans les Actes des Galates. Et tout le monde devrait avoir un guide d'études? Il est sur Blackboard, mais je vous l'ai également envoyé par email. Alors s'il vous plaît, regardez le guide d'études. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser avant lundi. Il s'agissait de la conférence 21 sur le livre des Éphésiens donnée par le docteur Dave Mathewson dans son cours d'histoire et de littérature du Nouveau Testament.